bonjour.
Morgane de Vignan, Paul Mirabel.
Bonjour.
Jérémy.
Bonsoir.
Carrément, c'est en décalage horaire pour maintenant. Tanguy Pastureau.
Bonjour les deux.
Daniel Morin.
Oh ma Morgane.
Et notre invité sera Mélanie Laurent. Avec le bal des folles qui est sur Amazon oui. Ou Prime Video, je sais plus. Enfin, sur Amazon Prime Video, comme ça on aura tout dit. APV, ça finit par être APV, je suis sûr, un jour. Ce bal des folles, on va jouer avec...
avec la folie.
Tanguy, Tanguy. Le coup de folie Thierry Pastor.
Il avait révisé.
Démarrer au quart de tour.
C'est ma jeunesse.
J'ai donné le thème, moi.
Folie de Thierry Pastor. Qui chante ça?
Tanguy.
Leïla.
Tanguy.
Non,
c'est Tanguy, c'est Tanguy.
Début de soirée.
Mais oui, évidemment.
Début de folie, quoi.
Alors, il va être difficile.
Avec ce clip incroyable.
Je crois que Leïla voulait juste crier.
Je crois.
Qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit. Réveille en toi le tourbillon d'un vent de folie.
Là, on chante tous. Ça, c'est de la musique.
Oui.
Non, ce qui est fou, c'est le...
Mais tu tapes, c'est ta façon d'aimer.
Sur Laetitia Gaillé.
À quel point, moi, je ne supportais pas cette chanson quand c'était un tube.
Avant.
Mais tu la connais par cœur.
Et là, maintenant... Non, mais maintenant, oui.
C'était trop grand, déjà.
Ça, ça
ah ouais.
C'est trop grand, mais quand on était en France,
on était tous panés.
Non, je ne veux pas en parler.
Là, Juliette Armanet, à la folie.
À la folie, je
suis
à la folie, je sers ton.
Il faut écouter son dernier titre.
Ah ouais, la mort du disco.
Le dernier jour du disco.
Il est fou.
Je veux le passer sur ta peau.
C'est un tube, ça.
Et le clip, pardon. La classe de Juliette Armanet, qui était la reine d'entre toutes, la reine.
Oui, enfin, le clip de début de soirée était très bien. Il portait des vestes jaunes. Hein. C'est même que Nagui à l'époque. Tout le monde portait des vestes jaunes.
On avait le droit à l'époque.
Oui,
c'est la vraie autorité.
Qui chante
Leïla.
Oui.
C'est la folie des grandeurs, non?
Pas du tout. Non, bien tenté. Non.
Jérémy. Non, Tanguy. Marie Laforêt.
Bien sûr,
j'avais dit mon prénom avant.
Oh, pardon.
Mais ce n'est pas grave. J'avais pas Marie Laforêt.
Ça a commencé comme
moi, j'avais que
Oui. Je vois très bien. Je crois que j'ai une idée pour Super Manco, mais je suis pas sûr.
Moi, j'en entends un.
Hein. Ouais.
Moi aussi, j'en note un au coin de la rue qui tourne.
Ah, non, tu crois que je l'aurais pas? Est-ce que je peux le tenter en avance?
Non.
Ça serait drôle.
Non, parce qu'après,
attends qu'on y arrive.
Après, ouais, okay. On te le prend.
Attends qu'on y arrive quand même. Pour l'instant, 3 points pour Tanguy, 1 pour Leïla.
Oui.
Qui chante?
Ah oui.
Mais si, on connaît ça.
Non, non, non. C'est pas William Scheller?
Si.
Jérémy.
Bravo. Bien joué. Maman est folle. C'est les paroles qui t'amusent.
Ouais, c'est le maman est folle qui a jailli là. On n'y peut rien.
Et c'est surtout on n'y peut rien.
Bisous, maman. Tu n'y peux rien.
C'est l'alcool. Là, je crois que ça va aller très vite. Attention, le prénom d'abord, s'il vous plaît.
Quoi?
Leïla?
Oui.
Dorothée?
Non.
On dirait où la menteuse?
Les bêtises?
Bah ouais.
Non.
René Latour?
Ilona Mitrocet.
On est juste en train de découvrir que donc le mec a fait la musique de Dorothée, l'a piqué parce que ça c'était bien avant.
Ou la menteuse, est amoureuse.
Ou la folle.
Tout autour de nous,
Dalida.
Oui.
Moi je trouve que c'est normal. Moi je trouve
je déteste
que
ce
c'est
jeu.
Normal.
J'adore gagner.
Attends, c'est pas fini. Attends, c'était le super banco.
Pour les fans de Dorothée, c'est très décevant là ce qui
vient de se passer. C'est très décevant.
Oui.
De t'aimer follement mon amour, de t'aimer follement, Vivine, après la folie. On va en parler en quelques instants avec Mélanie Laurent. Mais l'intro fait peur. Ben je suis d'accord avec vous.
C'était du Dorothée tout craché.
Mais non, mais sauf que c'est en.
Tout autour de nous.
Ah oui,
52.
Les gens sont jaloux.
Attention!
Super banco!
Je vais le tenter sur le
film. Es un super banco.
Je vais le tenter.
El señor, de la radio libre nationale, internationale.
Es super banco, vamos.
Es super banco. Vamos a bailar. Vous me donnez votre prénom et vous marquez 5 points qui sont synonymes de victoire.
Jérémy.
Oui.
Liane Folly.
Tanguy. Tanguy. Le bal des Lazes, Michel Polnareff.
Tanguy.
Moi j'entendais Crazy.
Il a tout pété que t'en liens de folie, quoi.
Dis donc.
Ma vanne était de faire tout sur la folie, sauf
finir
le
bal.
Et c'était une bonne vanne.
Bien joué.
Mais on peut pas pas vous l'enlever.
Et je vous demande d'accueillir Mélanie Laurent.
France
Inter, ça va, ça va.
Monde original avec Nadie.
Bienvenue dans le monde de la folie, Mélanie Laurent. On est ravis de vous accueillir.
Quelle ambiance.
Et commençons par un énorme bravo pour ce film. Tellement. Il est beau, il est bouleversant. Alors moi, je n'ai pas lu, contrairement à Leïla, je n'ai pas lu le roman, mais tu m'as parlé de fidélité, cas, pour l'adaptation de ce roman. Vous êtes tombé sur le roman, c'est une commande. Comment ça s'est passé avec Amazon? Parce que c'est la première fois qu'il y a un objet...
Une question à la fois, Nagui.
C'est la première il y a Mélanie Laurent, donc je vous dis.
Oui, mais elle va pas partir maintenant.
On ne sait jamais.
Choisissez après la question. Allez, on y va.
Comment est né le projet?
Voilà.
Ah. Oh.
Alors, c'est mon producteur.
Je suis fatiguée.
C'est mon producteur Alain Goldman qui m'a amené le livre. Et je venais d'avoir une petite fille et j'avais très envie de faire un film. J'avais envie de faire un film sur des portraits de femmes. J'avais un peu envie de mon cœur et mon esprit aller sur le Moyen Âge. Je voulais faire un film sur les sorcières, une grosse comédie là-dessus.
Ouais.
et finalement, voilà, j'ai avancé dans le temps, ce qui est pas plus drôle, hein. Mais je me suis surtout
pas si loin des sorcières.
Non, et puis je me suis rendu compte, j'ai été effarée de me rendre compte que finalement, bah, au Moyen Âge ou en 1880, les choses n'avaient pas tellement évolué. Oui. En tout cas, une femme qui savait quelque chose était dangereuse et donc il fallait la faire taire. Donc,
ouais. D'ailleurs, le film au générique de mémoire, vous dédiez ce film à toutes les femmes, à toutes les filles, à toutes les folles.
Ah oui, c'est
ça,
vrai.
Non?
Ouais. Oui, parce que, enfin, déjà, il faut qu'on définisse si le thème aujourd'hui c'est la folie. Quelle est votre définition à vous de la folie? Parce que c'est vrai que j'ai l'impression qu'une femme, dès qu'elle entreprend quelque chose ou dès qu'elle veut faire quelque chose, sortir
folle.
De sa boîte, bah très vite,
ouais.
Elle est folle.
Bah oui, c'est ça.
Toujours maintenant.
Toujours maintenant.
Oui, elle est hystérique, ouais. Elle est folle. Ouais.
Ouais. Mmh. Et il y a quand même cette espèce de, il y a des mots.
Le mot hystérique est toujours
l'utérus.
Attribué.
Ouais.
Toujours
ouais.
Attribué. C'est l'étymologie.
Oui.
Toujours
l'utérus.
Attribué aux femmes qui l'a dans le film. Alors, on est dans des moments de. D'abord, c'est la réalité du moment. C'est-à-dire qu'on est dans les années 1800 et quelques, c'est ça?
1880.
Avec Charcot, qui est reconnu comme étant un grand neurologue, un grand médecin,
ouais.
Mais qui sort pas grandi de votre film, et en tout cas du roman, parce que c'est un charlatan, quoi, qui...
Je sais pas si c'était un charlatan, parce qu'il a laissé des traces il a laissé un vrai savoir.
Une torture.
Oui, disons que je l'ai pas beaucoup aimé humainement.
Non, c'est clair.
Quand j'ai commencé un peu à lire sur lui, j'ai pas aimé qu'il ait un singe dans son bureau, des oiseaux un peu exotiques. Parce que j'ai pas aimé lire qu'il y avait beaucoup de femmes qui se suicidaient, qui essayaient absolument de sortir de cet hôpital à tout prix. J'ai pas tellement aimé l'idée que toutes ces femmes soient un peu cobayes, qu'on en choisisse parfois pour venir. Faire des crises d'hystérie soi-disant, ouais. Devant un parterre d'hommes fumant le cigare et buvant du brandy, enfin tout ça ne m'a pas beaucoup plu, quoi.
C'était un mec reconnu, premiers grands médecins français.
C'est lui qui a donné son nom à la maladie de Charcot qu'il a découverte,
et c'est la première star aussi, c'est-à-dire que c'est un homme qui est connu.
Ouais.
Et c'est le premier homme médecin qui est connu par la société, qui est dans les magazines, qui est dans les journaux.
C'est le cimetière du Moyen-Âge, quoi.
Un petit peu.
Et la grosse différence, c'est que lui abuse, viole des femmes.
Ah bah, je sais pas si j'ai violé des femmes.
Pardon ?
Je sais pas si Charcot a violé des femmes, c'est pas...
Enfin non, mais c'est l'un de ses collaborateurs. Enfin,
oui, disons que...
Bah, il profitait de ses jeunes femmes.
Bah oui, ils abusent. Bah,
quand j'ai... Ah bah, oui, non, mais je peux pas dire, moi, Charcot a violé ses patientes.
Si, vous l'avez dit là.
Vous l'avez écrit.
Un montage, c'est fait.
Juste avant, je peux pas dire, vous l'avez dit. Enfin, juste après, vous l'avez dit.
Mais il avait comme élève Freud.
Il a eu Freud. Ouais. Il a eu Freud. D'ailleurs, il y avait une version du scénario où à la fin, il y avait Freud.
C'est vrai?
Oui, qui était à la grille et. Enfin, je ne vais pas spoiler le film, mais...
C'est juste une apparition.
Il est de dos dans la figure à un moment.
C'est ça, ouais. Mais si tu regardes bien, tu le reconnais. Hein.
Tout vient de votre mère. Oh, il est parti.
L'idée de ces femmes internées à la Salpêtrière, on est au 19e siècle. Le point de départ est l'histoire du personnage joué par Lou Delage, qui a des visions, qui a la capacité, non pas... comme dans Sixième Sens, de voir des morts, mais de pouvoir communiquer avec les esprits. Et la nuance est importante.
C'est pour ça que j'ai ouvert le film sur la mort de Victor Hugo. Parce qu'en fait, Victor Hugo, il était spirit.
Il faisait tourner les tables.
Bah, il faisait tourner les tables. Et puis surtout, là, il s'était jamais remis de la mort de sa fille.
Léopold Dean, ouais.
Et donc, il était, c'était un dieu vivant pour tout le monde, en France surtout. Mais, et donc, quand j'ai lu ça, quand je me suis rendu compte, c'était exactement la même période que le livre, je me suis dit, bah, en fait, c'est comme ça qu'il faut ouvrir. Il faut ouvrir sur l'homme le plus aimé de France, des millions de gens dans les rues, qui le pleurent, et lui, qui a le droit de parler aux esprits.
À l'enterrement, elle est,
Oui, c'est la première qu'on découvre dans cette foule. Et je voulais montrer que cette femme qui est tant émue par cet homme, tant émue par le poète, par l'homme de l'aide, l'homme politique, par tout ce qu'il était, elle qui se sent si proche de lui, elle qui aurait peut-être même pu l'aider, peut-être qu'elle aurait pu le faire rentrer en relation avec sa fille, elle qui le pleure, elle est à contre-courant de toute cette foule qui regarde vers un endroit et elle se retourne vers nous pour nous dire « moi je vais être vue comme différente ».
Et ça vous l'avez ajouté, ce n'est pas dans le livre.
Oui.
C'est votre interprétation en tout cas de la mise en situation de l'histoire des Bals des Folles.
Oui, parce que le livre il avait une structure cinématographique qui était géniale et qui nous a rendu beaucoup de services avec Christophe Deslandes avec qui j'ai adapté le livre. Mais... évidemment qu'il manquait des choses et puis ce qui est génial quand on adapte un livre c'est à quel point on va le trahir, à quel point on va en faire un peu le sien et tous ces petits détails comme ça c'est assez merveilleux à inventer, à écrire parce que comment tout d'un coup, en un quart d'heure, il faut qu'on puisse parler d'une bourgeoisie, de la place de cet enfant dans cette famille, des interdits, de tout ce qui est possible pour son frère mais pas elle. Comment la placer dans une société, dans une rue, dans une ville. Et en fait, c'est ça qui est génial, c'est que quand on a très peu de temps...
Mais vous avez un sourire quand vous parlez de trahison, vous faites peur.
en une scène, vous faites comprendre aussi à quel point elle... et généreuse, polie et respectueuse avec entre guillemets le petit personnel, c'est-à-dire qu'il y a une demoiselle qui reçoit tous les chapeaux, tous les manteaux
qu'on lui jette pratiquement dessus.
Qu'on traite comme un perroquet quoi, comme un porte-manteau et puis il y en a une seule
qui dit merci.
Oui, mais elle le dit à la fin, c'est on dit OK, elle aussi
merci
elle est pas
Marthe.
Sympa. Elle aussi elle est pas sympa et à la fin, elle finit par dire le merci Marthe, c'était à humaniser en plus ce merci et pas simplement à le dire par formule de politesse. Et d'ailleurs, on sent dans la réponse de cette jeune fille qu'il y a une connivence, une complicité et un respect mutuel qui n'est pas le cas de toute la famille
qui va de femme à femme en fait.
Oui, et puis la famille qui va la trahir aussi. Puisque c'est tout part de la famille et le frère va culpabiliser, porter comme un fardeau d'ailleurs cette trahison. On va continuer d'en parler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le film, y compris sur le travail de réalisatrice que j'ai adoré. La lumière, la direction d'actrice et le jeu, la musique d'Azaf Avidan. Il y a beaucoup de choses à dire. On dit le bien au début parce que malheureusement arrive Morgane Cadignan qui ne vous aime pas, mais alors pas du tout. Voici Morgane.
Ouh là là.
La crevure.
Comment peux-tu ne pas aimer Mélanie Laurent ?
J'ai fouillé longtemps. Hein, mais Mélanie Laurent, je vous aime pas parce que vous réalisez un film qui était à la base un livre et comme absolument toujours dans ces cas-là, c'est insupportable. Les gens, ils peuvent pas s'empêcher de la ramener. Dès que tu parles du film, je l'ai pas encore vu, mais le livre est top. Mais ça va, on a compris que tu lis des livres, Annabelle, putain. Oh, tu sais lire, bravo, t'as terminé le CP, tu veux une étoile sur Hollywood Boulevard. Non, mais c'est vrai, c'est chiant, quoi. En gros, le film, c'est l'histoire d'Eugénie qui se fait interner dans un service psychiatrique parce qu'elle voit des morts. Le service à l'hôpital s'appelle le service des hystériques. Et c'est fou, comme un siècle et demi plus tard, on se rend compte que c'était pas forcément des hystéros, mais des femmes empêchées et oppressées, finalement. Empêchées et oppressées par qui ? L'histoire ne le dit pas. Ah bah si, par des hommes. Heureusement, en 2021, ça n'existe plus. Un endroit où on traite les femmes de folles quand elles expriment un avis différent. À part parfois le Sénat et CNews et certains réveillons de Noël dans toute une partie de ma famille. Heureusement, pas ici. Ici, ça va. On est très woke. Les hommes autour de la table sont hyper progressistes. Et en même temps, ils ont pas le choix. Je sais pas si vous avez déjà vu Leïla s'énerver, mais t'as pas envie de dire un truc de travers. C'est comme les chevaux, quand elles baissent les oreilles, tu fais un pas en arrière direct. La ville a des granulés sous son bureau si un jour ça part trop en couille. On est prêts. Bon, là, dans le film, votre personnage principal, Mélanie, elle a quand même une petite particularité, c'est qu'elle voit et qu'elle entend des morts, là où nous, dans la vie, on voit et on entend juste des presque morts, qu'on appelle plus communément papy et mamie. Mais c'est vrai que d'habitude, quand ils passent de l'autre côté, on ne discute plus avec eux une fois qu'ils sont morts. Enfin, on peut discuter avec nos morts, mais dans nos têtes. Moi, je le fais beaucoup, ce qui est assez génial parce que tu leur fais dire absolument, mais ce que tu veux. Mon grand-père, il a jamais été aussi bavard depuis qu'il est décédé, quoi. Et je suis fière de toi, et bravo pour ta chronique, et que t'as vachement minci, et que t'es l'avenir de l'humour, il la ferme jamais, c'est insupportable. Dans le dossier de presse du film, vous appelez ça un don unique. Alors, c'est un don unique, oui, mais un peu chiant. C'est pas un don comme tout le monde dont on se vante dans les dîners. Genre, ah bah moi, je sais imiter Chirac, ou ah bah moi, je sais siffler avec le cul. En général, c'est la même personne. Et c'est Paul.
Ça va.
C'est Paul. Là, dans le dîner, si quelqu'un, pendant le tour de table, déclare, ah bah moi, je vois et j'entends des gens décédés. D'ailleurs, Chirac me fait vous dire qu'il adorait l'imitation de Bruno. Oh bah, ça fout une petite gêne, quoi. Heureusement qu'il y a l'autre qui se met à siffler avec son boule, sinon on n'est pas bien. Moi, j'espère qu'on ne peut pas parler avec les morts. Honnêtement, j'espère que les morts ne nous voient pas. Ça m'angoisse énormément. Se dire qu'il y a peut-être des morts avec nous dans le studio, j'espère pas. Moi, j'espère que mes proches décédés, ils ont quand même déjà mieux à foutre que de regarder mes chroniques. Surtout que les vues des défunts ne sont pas comptabilisées sur YouTube. Donc, barrez-vous de là, en fait. T'imagines, dans toutes les activités que propose l'au-delà, tu choisis d'assister à l'enregistrement de la bande originale. Flemme. Moi, mon père, toute sa vie, il nous a parlé de Leonard Cohen. J'espère au moins que là, ils sont ensemble et que toute sa mort, il est pas en train de mater Fabrice Drouel, quoi. Sinon, ça valait pas le coup. Quand on est déjà décédé une fois, on n'a pas besoin de revenir pour voir Jérémy Crédville chanter, quoi. Enfin, à chaque vie suffit sa peine. Donc, pour cette émission, les amis, je vous propose de rester entre vivants ou presque. Puis, pour ceux qui sont partis et qui nous écoutent et qui nous regardent peut-être, si tant est qu'on capte France Inter dans l'autre monde, et j'espère pas, j'ai qu'un truc à dire à mes morts à qui je parle souvent et que j'entends pas beaucoup, en m'inspirant de la filmographie de Mélanie Laurent. Respire, je vais bien, ne t'en fais pas.
Parfait, merci Morgane.
Morgane, qu'on retrouve au théâtre du jeudi au samedi à 20h au Métropole, c'est à Paris, puis bientôt en tournée dans toute la France.
Merci. Et au Père Lachaise en communication, tous les morts.
Mélanie Laurent, le point de départ, ça a été la volonté de filmer des femmes. J'allais dire de tourner avec des femmes. Non, ça, vous l'avez déjà beaucoup fait, mais de les filmer. Et de filmer, j'allais dire, la manière dont vous placez votre caméra, la manière dont vous dirigez. Nous, on n'a pas vu, évidemment, comment ça se passait sur le plateau, mais on voit le résultat. Notamment, les nuques, il y a beaucoup de scènes, les deux premières, au début, en tout cas, on ne voit que de dos.
J'adore ça. Et d'ailleurs,
retournez-vous.
On voit beaucoup de dos, parce que je trouve que si on arrive à parler d'un personnage juste avec une nuque, une respiration et une manière de se tenir, je trouve que c'est assez mystérieux et que... Je sais pas, on attend le contre-champ, on attend de voir qui est le visage qui va avec cette nuque. Mais c'est vrai que je filme très peu de profil, du coup, je me suis rendu compte. Je filme beaucoup de dos, j'aime bien cette tension-là, j'adore avoir des plans très très serrés, et de profil rarement.
Et ces femmes que vous vouliez filmer, vous vouliez les filmer d'une manière particulière, c'est-à-dire, je m'exprime mal ou si je si je vous choque en disant ça, de les filmer ni dans une forme d'érotisme, ni dans une forme de d'embellissement, mais les plus naturelles possibles, c'est-à-dire elles sont nues, mais il y a rien de gênant, tout est filmé d'une manière extrêmement naturelle. C'est ni fait pour exciter, ni pour aguicher, ni pour rincer l'œil. C'est juste fait pour montrer
des
choses normales et d'un coup, il y a rien de gênant.
Alors, est-ce que c'est ça être une femme réalisatrice? Je me pose la question là maintenant.
Je suis persuadé qu'aucun homme n'aurait pu filmer comme ça.
En tout cas, je ne suis pas sûre.
Non, je suis pas sûre. Parce que dans le sujet, dans le film, pardon, dans le propos, quoi, on filme une communauté de femmes, on filme une entraide, une sororité, une naissance de quelque chose de très très beau, et on filme aussi des corps cabossés, des corps entravés, des corps fatigués, et on est dans simplement une vision très réaliste de ce qu'est le corps, et sans vous enlever quelconque forme de mérite, je pense qu'un homme peut aussi poser cette caméra dans cet esprit-là, vraiment, dans cette intention. L'intention, parce que l'intention qui sert le propos...
Je ne suis pas d'accord avec
une femme pourrait filmer des hommes aussi.
Non, parce que
Bonello l'a fait dans la Polonide, il le fait avec une dimension érotique, puisque on est dans une maison close. Sauf que s'il l'avait fait, je pense l'exemple de ce réalisateur à propos, parce que je trouve qu'il a un vrai regard aussi, je pense qu'il n'aurait pas fait de façon sexualisée ou érotique non plus. Je ne crois pas, Mélanie.
Non, alors je peux vous dire comment ça se passe sur mes plateaux dans ces cas-là, parce qu'en fait. La scène, par exemple, où elles se lavent toutes, j'en avais 5 qui étaient d'accord. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, c'est dommage, 5, j'aurais bien voulu plein de gens dans la salle. Mmh. Et donc, je suis allée voir toutes les figurantes et je leur ai dit, voilà, je vais vous montrer mon mood board. C'est plein de photos, plein de références. Il y a beaucoup de Lautrec, du Monet. Et puis le chef-op il sera pas là, je vais mettre que des filles sur le plateau. Enfin, si jamais vous avez envie, voilà comment ça va être. Je vous promets que ça va être très beau. En fait, ça va être un très beau tableau
là,
vivant.
Là, c'est pour les rassurer.
Non, c'est parce que je savais comment on j'allais les filmer. En fait, c'était pour les prévenir de ce que j'allais faire.
J'entends, mais en disant il n'y aura que des filles sur le plateau,
oui,
c'est une manière de les rassurer.
Bah, c'est une manière de respecter
sur leur intimité. Voilà, c'est ça. Oui,
oui c'est parce qu'en fait les plateaux, quand on est nu, en général, quand le réalisateur s'occupe un tout petit peu de la gêne ou pas de ses acteurs, en général, on fait tout le monde le fait pas. Hein. Mm. Mais normalement, tu fais un plateau. Réduit.
On appelle ça équipe réduite.
Ouais. Et là, c'était très beau parce qu'il y avait que des femmes du coup sur le plateau. On était 3-4 et il y a plein de filles qui a priori auraient jamais accepté d'être filmées nues, qui tout d'un coup ont dit oui et puis elles se sont toutes regardées et puis elles sont rentrées dans la pièce et elles se sont foutues de l'eau partout et ça a un peu ri. Et nous, à la technique, on était tous en larmes. Et je pense que le sujet. Le Covid, hein, c'était un film en plein Covid, hein. C'est-à-dire que tout était fermé, on était dans une espèce de ville fantôme, on était testé 3 fois par semaine, on se retrouvait jamais dans les bars, on se retrouvait jamais plus nulle part. C'était un film très étrange à tourner parce qu'il y avait une sorte aussi de bonheur à tous se retrouver tous les jours aussi, sur un sujet fort, après une vague MeToo quand même extrêmement violente de partout dans le monde, où tout d'un coup on était avec beaucoup d'hommes sur le plateau, et puis toutes ces femmes qui ne prenaient pas le pouvoir, qui étaient simplement ce qu'elles étaient. Et il y avait beaucoup d'émotions du coup. Et je pense que ce tournage-là particulièrement, c'était juste une histoire de... Avant de savoir comment filmer ou le regard que je voulais même porter, c'était plus qui a envie de quoi. Et j'ai même demandé à mes actrices avant, est-ce qu'il y a une partie de ton corps que t'aimes? Est-ce qu'il y a une partie de ton corps que tu n'aimes pas? Est-ce qu'il y a quelque chose que t'as jamais joué? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais jouer? Est-ce qu'il y a une cicatrice que tu voudrais me montrer? Que tu voudrais que je maquille encore plus? Et je suis partie en fait de plusieurs actrices avec qui j'avais envie de travailler. Et puis... ce qu'elles avaient envie de faire, et puis on a beaucoup improvisé aussi sur le plateau.
Et ce respect-là, vous ne l'avez pas toujours rencontré en tant qu'actrice sur d'autres plateaux?
Qu'est-ce que tu veux jouer? Comment tu te sens? Est-ce que ça va? Est-ce que tu veux jouer nu ou pas? Non, pas beaucoup, non.
On ne pose pas la question.
Non, pas beaucoup.
On dit c'est comme ça, on les écrit.
C'est plutôt où est mon costume,
quel costume? Non, c'est dans le scénario, et amenez-moi mon peignoir, mais... Non, il y a pas de. Enfin, après, j'ai
des
femmes avec qui j'ai tourné. J'ai pas beaucoup tourné de femmes de scène de nu.
Ça évolue avec justement
MeToo.
Oui, MeToo, la libération de la parole, ça évolue. Maintenant, il y a même des référents sur les plateaux, des référents harcèlement et des référents Covid.
Donc, et des clauses que tu signes.
C'est-à-dire.
Dans les contrats, il y a des clauses de non harcèlement, ce que je trouve enfin aberrant, mais il y a des clauses dans les contrats de tu n'harcèleras pas les
ton voisin.
Ouais.
Tu ne tueras pas ton prochain.
Ouais.
D'accord.
Ce qui est plus sympa, hein, sur
oui, à la base. À la base. Mais non, ça paraît tellement évident que ça paraît bizarre de devoir l'écrire. Mais, vous sentez pas une évolution?
Si, bien sûr. Ah, évidemment. D'accord. Et puis, je sens aussi, le moment où on dit stop, en fait. Mmh. En fait, je sens une rage et un moment où toutes les femmes maintenant se disent, mais en fait, non, c'est même pas en rêve, ça va même pas arriver, en fait. Ce qu'on n'osait même pas se dire et ce qu'on n'osait même pas dire à haute voix. Donc ça, c'est surtout dans un pays comme la France, qui a, je crois, dans ce métier, moins souffert d'harcèlement que dans d'autres pays, parce qu'on n'a pas ce rapport avec les gros studios, donc des gros patrons, donc des espèces de monopoles.
Ouais.
J'ai l'impression qu'en France, il y avait aussi beaucoup le... Il y a quelqu'un qui se comporte mal, t'appelles ton agent, c'est très vite réglé. Presque comme une mafia en France, alors que aux États-Unis, il y avait ces hommes comme ça qui étaient... qui
toute
avait une toute puissance et qui pouvait faire une carrière ou pas. Mm. Et ça, c'était ça qui était
terrible.
Oui, bien sûr, de la même manière.
Que vous n'avez jamais croisé?
Je les ai croisés, mais heureusement, j'avais été plutôt avertie, donc j'ai eu de la chance, en fait.
Sur Inglourious Basterds, par exemple.
On va pas faire toute l'émission sur la nudité, mais il y a une scène. Il y a une scène où la nudité est utilisée comme une arme et comme une provocation, la scène entre vous et Lou Delage, où tout se fait dans le regard, dans l'adversité, une espèce de bras de fer, comme ça, entre femmes, qui est incroyable. Comment on écrit une scène comme ça? Est-ce qu'elle l'est dans le livre, et comment vous l'avez dirigée?
Je sais plus ce qu'il y a dans le livre. En fait, ce que je fais parce que j'adapte beaucoup de livres, je le lis et puis je le réouvre plus jamais.
D'accord.
Donc je sais plus si cette scène exacte était écrite exactement comme ça. En tout cas, oui, ce qui était intéressant, c'était de voir à quel point une femme habillée est extrêmement dure, avec une espèce de... Enfin, il y avait tout était une histoire de miroir, quoi. Il y a une jeune fille très belle.
La femme habillée est dure perd le match contre la femme.
Je sais pas
faible.
Si elle le perd.
Non, elle le perd.
Ah
bah
oui.
Si elle le perd.
Ah je crois pas qu'elle le perde. Ah bah non, je crois qu'elle se toise, elle se.
C'est loup de lâche.
Et tu te rends compte que ça va être très difficile.
Oui, moi je trouve
que. C'est là, tu te rends compte que ça va.
Bah oui, mais désolé, c'est là où elle gagne le match.
Non, ce que j'ai rajouté pendant qu'on l'a tourné, ce que j'ai rajouté d'une prise à une autre et finalement j'ai gardé ça, c'est que je devais être assez dure, pas violente physiquement, mais je devais être encore plus dure dans mes gestes. Et j'ai rajouté, tu me dis si je te fais mal.
Oui.
Et en fait, en rajoutant ça, je me suis rendu compte que ça rééquilibrait la scène, c'est-à-dire que il y avait la possibilité effectivement d'avoir tout un film qui allait parler d'une relation entre ces deux femmes qui allait obligatoirement évoluer.
Vous, vous êtes l'infirmière en chef, elle est balancée par sa famille dans cette salpêtrière ou simplement parce qu'elle n'est pas comme les autres, elle est jugée pour folle, mais de la même manière que une jeune fille présente dans cette salle ou dans ce dortoir a été aussi internée parce que elle a dit que son papa l'a violée ou la forcer à subir des actes. Donc, évidemment, elle est folle. Hop, on la balance là-dedans. C'est-à-dire que ça prouvait que la décision d'être folle ou pas, c'était les hommes qui la prenaient en disant, elle correspond à ce que je veux, elle accepte ce que je fais ou pas. T'acceptes pas, t'es folle, t'acceptes, tu rentres dans le rang.
C'était même pire que ça, le diagnostic, parce qu'il y avait beaucoup de femmes violées, jeunes filles violées, qui en fait faisaient des scènes d'hystérie juste parce qu'elles étaient traumatisées.
Bah oui.
C'était ça. Enfin, c'était bien pire que on m'a violée, on te croit pas, t'es folle. C'est la crise d'hystérie qui en fait part d'un viol et d'un traumatisme est vue comme une folie. Alors que c'est pas c'est pas ça la vraie folie. Il y a pas tellement de causes.
La scène de l'internement est bouleversante.
Terrifiante. Ouais. L'arrivée.
Terrifiante. Ouais.
On n'arrêtait pas de se dire, on dirait un kidnapping à la
russe. C'est horrible. C'est ça. Et puis surtout avec des cris d'amour. C'est-à-dire que ces cris d'amour sont encore plus déchirants parce que elle adresse tout son amour à celui qui est responsable quelque part de cet internement et de là arrive une autre tragédie. Il y a plusieurs niveaux de lecture et même une sorte de thriller quoi. On se demande comment tout ça va bien pouvoir finir. D'abord si ça va bien finir ou pas. Ça fait partie aussi de ce suspense. C'est depuis quelques jours sur Amazon Prime, Le Bal des Folles, un superbe, superbe film de Mélanie Laurent avec Mélanie Laurent et Lou Delage.
Qu'elle apparaît, on a un peu peur. Hein.
Le chignon.
C'est là où on parle des femmes, mais on parle aussi de la puissance nuisible aussi de la femme dans ce cadre-là. C'est pas manichéen.
Non.
Non, mais l'égalité, elle est partout.
C'est ça? Ah bah oui.
Ouais,
ça, c'est de bonnes paroles.
Même là. Non, mais c'est vrai. Elle est dans le mal aussi. On va continuer d'en parler.
Elle est pas partout, du coup, mais elle peut être dans le mal.
On va continuer d'en parler. Voici d'abord Paul.
Où ça?
Elle est là, devant toi. Ah, tous les cheveux.
Bonjour Nagui, bonjour Léla, bonjour Daniel,
salut.
Bonjour tout le monde.
Bonjour Paul.
Est-ce que tout le monde va bien aujourd'hui?
Oui, Paul. Et toi?
Écoutez, moi aussi ça va très bien. C'est la semaine du cinéma en ce moment en plus. Et là vous vous dites, mais pas du tout, je sais. Mais comme j'ai écrit une chronique sur ce thème-là, il fallait que je la justifie par ce qu'on appelle une accroche saisissante. Non, je suis allé au cinéma moi cette semaine tout seul. Je tiens à souligner que c'était un choix. C'était pas le mien, certes, mais c'était un choix. Je suis allé voir Boîte Noire avec Pierre Niney. Vous remarquerez d'ailleurs que j'ai globalement 4 semaines de décalage par rapport aux invités qu'on reçoit ici. Donc je serai très heureux dans un mois de vous parler du nouveau film de François Ozon. L'avantage par contre quand tu vas au cinéma tout seul, c'est que le débrief après est beaucoup plus rapide. Tu te dis, Paul, est-ce que t'as aimé le film? Oui, et voilà, fin du débrief. J'ai mené mon enquête sur le cinéma en y allant par contre, et je pense que les gens qui travaillent dans l'industrie cinématographique regardent trop de fiction. Sinon ils seraient au courant qu'un petit popcorn ne coûte pas 17 euros.
Ouais.
17 euros le popcorn, j'espère qu'au moins que quand tu sors de la séance, il t'aura jusqu'à chez toi et t'explique la fin du film d'ailleurs. J'ai réalisé d'ailleurs qu'un popcorn coûtait plus cher qu'une place de cinéma elle-même. Ouais. Donc je crois que tu vas pas au cinéma en prenant un supplément popcorn, je crois que tu vas au popcorn et que tu prends un supplément cinéma.
C'est vrai.
Il y a également un autre problème de taille qui subsiste au cinéma, qui est que quand un inconnu s'assoit à côté de toi, s'installe une bataille pour gagner l'accoudoir central, puisqu'il y a un accoudoir pour deux coudes. La vraie intrigue est plus dans le film d'ailleurs, à ce moment-là elle est sur qui va gagner l'accoudoir central. Et le problème s'accentue quand tu as un voisin des deux côtés et je crois avec du recul que je n'ai jamais gagné une bataille d'être au doigt et que j'ai regardé tous mes films comme ça. Donc on dirait plus quelqu'un qui regarde un film.
On a croisé,
oui, on dirait quelqu'un qui a froid. C'est un vrai plaisir de retourner au cinéma. Par contre, vraiment, j'avais oublié à quel point c'était une expérience immersive. Je l'ai deviné puisque je suis allé voir Star Wars une fois et à côté de moi, il y avait un monsieur intégralement déguisé en Dark Vador un mercredi à 9h du matin. Et je me suis dit, chacun ses priorités dans la vie. Et je m'assois à côté de lui donc et poliment, je lui dis bonjour monsieur. Et il me répond, on dit bonjour Seigneur Vador. Je me suis dit, ah oui, effectivement, il y a plus de gens au chômage que ce qu'on pense. Et je crois qu'il a pris son rôle beaucoup trop à cœur, ce monsieur, puisque pendant le film, il a gardé son casque, alors qu'on sait que c'est pas le vrai Dark Vador, et qu'en dessous, c'est un intermittent qui s'appelle Fabrice. Et je me doute bien que le vrai Dark Vador, il est pas à l'UGC Montparnasse à 9h du matin, et qu'il est sûrement un peu plus occupé que ça. Non, ce que j'aime beaucoup en allant au cinéma, d'ailleurs, c'est qu'en sortant de la séance, souvent, tu te crois encore dans le film, ce qui est bien quand tu vas voir James Bond, un peu moins quand tu vas voir Astérix Mission Cléopâtre, et que tu t'amuses à essayer de soulever des menhirs juste après. Mais il y a deux choses, par contre, qui m'énervent au cinéma, et j'ai des revendications un peu cette semaine. La première, c'est le petit bonhomme avant le film qui fait du tapis volant avec une pioche,
Oui.
Là.
Oui.
Ça fait 50 ans qu'il envoie des pioches sur des gens, on n'a jamais compris pourquoi. Et l'autre chose qui m'énerve, par contre, c'est que parfois, il y a des gens qui partent pendant le film, alors qu'ils ont payé, et en toute sincérité, 17€ le popcorn, moi, je reste même jusqu'à la fin du générique pour savoir que c'est Thierry Moncler, le 8e assistant lumière. Je me permets un peu de parler de cinéma, d'ailleurs, puisque j'étais moi-même en tournage cette semaine. Est-ce que certains ont vu la saison 1 de la série Validée?
Oui, bien sûr.
Oui. Et ben là, c'était pas ça du tout. voilà. Non, j'étais rôle principal de mon tournage. Après, c'est plus simple parce que c'était le seul rôle aussi. C'était un rôle assez poignant et immersif d'ailleurs. Donc, je sais pas vraiment si c'est l'acteur ou le personnage qui vous parle. Et pendant le tournage, je me suis retrouvé à nager habillé dans un lac à 8 degrés. Tout ça dans le 77. Et je me suis dit, mais qui est l'imbécile qui a écrit ce scénario? Et en fait, j'avais oublié que c'était moi. Et plus je tournais ma scène, plus je me suis dit, en tant que spectateur, je n'ai absolument pas envie d'aller voir ce film. Donc j'ai pris une décision, si un jour j'ai la chance d'écrire un long métrage, il n'y aura que des scènes en intérieur jour, proche d'une cheminée, et le film s'intitulera Cheminée. Voilà. Donc là je ne sais plus vraiment si c'est l'acteur ou le personnage qui vous parle, mais je vous dis, vive les popcorns à 17€, et merci de m'avoir écouté.
Merci. Et Paul, on te retrouve en spectacle?
Oui, du mercredi au samedi au Théâtre des Mathurins.
J'ai une petite faiblesse sur la fin.
Il y a un très dur. Le bal des folles, Mélanie Laurent, un sujet grave, comme souvent d'ailleurs, vous aimez aborder. C'est-à-dire, avez-vous le sentiment de devoir être utile, en fait, avec vos films?
Non, mais c'est vrai que j'ai...
La thématique, chaque fois qu'ils
sont... J'ai du mal à...
À faire une comédie?
Il n'y a pas eu un film sur les pomelos, quoi.
Non.
Non.
Pas encore.
Pas encore. Peut-être que je l'écris. C'est même une série.
Le profil.
Mais je sais pas, en fait, c'est vrai. En fait, je sais pas si je me dis qu'il faut que je le fasse. Je me donne pas beaucoup de règles, mais j'ai beaucoup de mal à imaginer que je vais donner 2-3 ans de ma vie et qu'à la fin, le sujet va pas avoir un tout petit peu compté par rapport à ce qui nous entoure, juste avoir l'impression d'être un tout petit peu connecté avec ce qui se passe.
Non, mais
quoi.
C'est une manière donc de s'affirmer, de dire je suis utile ou en tout cas je ne suis pas aussi légère que ce que. Vous pensez
pas, ou je suis pas sûr que les gens pensent pas... que je suis légère. Je crois que vous êtes un peu le seul à le savoir.
Non mais vous aimez rire, vous aimez vous amuser.
Mais c'est vrai que respire, plonger, les adopter, pour en citer trois comme ça qui me reviennent.
Les adopter, du coup, c'était une grosse comédie par rapport aux autres.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, quand même, c'est quand même hyper triste aussi.
C'est vrai.
Bah oui.
Non mais c'est très dur aussi la comédie.
Que ce soit sur l'écologie, le harcèlement, le rapport, la bipolarité, la folie, enfin, ce sont des sujets. D'abord, est-ce que c'est vous qui allez les chercher ou c'est eux qui viennent?
Finalement, c'est eux qui me choisissent. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir l'écho que ça fait en moi, mais c'est souvent des livres qu'on m'apporte, c'est souvent des...
Oui, mais qui vous touchent.
Qui me touchent, qui me bouleversent, et puis que j'arrive à rendre un peu personnel, en fait.
J'ai entendu dire que l'euthanasie s'intéressait à vous encore.
Oh non.
Pareil, peut-être
quelle
une
horreur.
Série.
Yes, quelle horreur.
En deux épisodes.
Vous aimez les actrices, je ne sais pas si c'est le cas de toutes les actrices, y compris celles qui deviennent réalisatrices, mais vous les aimez. Comment les choisissez-vous? En fonction de leur manière de jouer? En fonction de ce qu'elles dégagent d'autre que simplement un bien jouer un rôle?
Pour Respire, par exemple, l'août de là, j'étais arrivée avec Joséphine Japy, elles étaient arrivées en essai, elles avaient très très peur. Ça a été une catastrophe, ces essais. Et elles sont reparties. Elles m'ont raconté après que sur le trottoir, elles se sont dit, bon bah voilà, c'était sympa de te rencontrer, c'est mort. On a été tellement nuls, c'était tellement nul. Et moi, j'étais atterrée de ce que j'avais vu. Je me disais, comment on va faire? Et je les ai re-rappelées en leur disant, bon, c'était pas ça. Mais si c'était pas ça, c'est que c'était ma faute. Donc du coup,
comment ça?
Bah parce que en fait, j'étais sûre au fond de moi que c'était les deux actrices parfaites pour ces rôles-là. D'accord. Donc je me suis dit, je n'ai pas réussi à leur enlever le stress. Il y a pas eu la rencontre qui s'est bien faite. Et puis c'est très impressionnant de faire des essais quand on a envie de faire un film. Et donc il faut qu'on se dise que ça va le faire. Donc j'ai un très bon instinct que j'ai pas toujours dans la vie. Mais j'ai un très bon instinct.
Il y a un dossier là, il y a des
dossiers. Au cinéma. Non mais c'est vrai, au cinéma, dans le travail, je rencontre des femmes et des actrices extraordinaires qui me bouleversent, qui me surprennent et en qui j'ai totalement confiance et qui me font énormément confiance aussi, et c'est assez
parce que vous l'avez été vous aussi, parce que vous savez qu'on n'est pas justement toujours dans l'excellence, dans le quart d'heure où on demande de faire des essais. Donc ça, c'est votre vécu d'actrice qui vous permet de faire ça.
Et c'est vrai qu'en plus je suis très très mauvaise en essais, et j'ai beaucoup remercié tous les réalisateurs qui m'avaient choisi quand même
malgré les essais.
Mais oui, parce que c'est dur les essais.
Et pourquoi vous aimez autant les actrices? Parce que on pourrait avoir de loin une vision de l'actrice comme un individu compliqué. En tout cas, c'est ce que souvent vendent les réalisateurs.
Une concurrente aussi.
Mais pourquoi les actrices?
Mais c'est vrai, hein, y a un vrai malentendu sur les actrices. Il doit y avoir quelques divas quand même dans ce monde. Mais oui, honnêtement, les acteurs sont beaucoup plus compliqués.
Vous dites que les actrices, ce sont des soldats.
Oui. Ça oui, parce que alors je sais pas si c'est parce qu'elles ont une certaine exigence ou si parce qu'elles prennent ce métier beaucoup plus au sérieux qu'elles se rendent compte qu'à un moment donné, à partir de 40 ans, il n'y a pas la même carrière. Enfin, la différence entre une actrice et un acteur, j'ai l'impression, c'est que nous, quand on commence, il faut que ça marche très très vite. L'acteur, il a le temps de se bonifier. L'acteur, il peut prendre son temps, il peut faire certaines erreurs, il peut revenir en force, il peut bien vieillir. Nous, si on n'a pas compté avant 30, déjà c'est compliqué, on n'aura pas accès à
ça. C'est plus facile pour un homme d'avoir un rôle.
Oui, et puis il y a ce fantasme.
Plus vieux déjà.
Non, mais il y a ce fantasme de l'actrice. C'est l'actrice qui est sur les magazines. C'est l'actrice qui fait les promos. C'est l'actrice qui met des jolies robes et qui monte les marches.
Qui est une icône pour des parfums ou des bijoux.
Qui est une icône de tout et qui doit représenter un film et qui doit accepter de se transformer, de changer, qui doit être très très intelligente en interview parce que sinon elle s'en prend plein la gueule. Elle a pas beaucoup le droit à l'erreur, l'actrice, en fait. Du coup, j'ai l'impression que cette espèce de métier qui nous force à être extrêmement forte, c'est un mental très très différent, presque d'athlète. Et je trouve que du coup, c'est des femmes qui sont assez impressionnantes et merveilleuses de professionnalisme, surtout.
On va revenir au sujet du film dans quelques instants avec Nicole Edelman, qui est historienne, maître de conférences en histoire contemporaine à Paris 10, à Nanterre, et auteur des métamorphoses, de l'hystérique, du début du 19e siècle à la Grande Guerre, aux éditions de La Découverte. Et on parlera de Jean-Martin Charcot pour savoir qui était-il réellement. La musique d'Azaf Avidan est présente dans votre film, une musique qui est planante, inquiétante par moments en tout cas.
C'est beau, hein.
Et profonde.
Premier film, il n'avait jamais composé pour un...
Jamais.
Jamais.
Dans les années 80, Mélanie Laurent, vous écoutiez...
Il jouait du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça
fallait un petit peu la patate, surtout si tu mettais à sa famille juste avant.
Heureux d'être là, malgré tout, jouait du piano debout.
Toute une génération, évidemment, a grandi avec France Gall. Et cette chanson est jouée du piano debout.
Et on évoque les années 80, Mélanie, pour évoquer votre enfance, une enfance que vous qualifiez d'heureuse, avec un papa qui pouvait vous faire la voix de Ned Flanders à la maison, notamment. Il y avait plein d'autres voix, j'imagine, puisqu'il était comédien. Il est comédien et il fait du doublage.
Power Rangers, Force Bleue.
Ah,
c'était lui.
Désolé.
Ça calme.
Inspecteur Quentin.
Cat size. Comment on devait bicher à l'école avec ça?
Regarde comme elle
frise. Tu veux, quand t'arrives à l'école et que tu dis ton père c'est Power Rangers, Force Bleue, ça calme.
Tu passes pour une mytho. Tu passes pour une folle.
Tu passes pour une hystérique.
Et voilà.
Je suis le père Noël.
Vous parlez de cette confiance qu'on a infusée comme ça chez vous toute petite. J'imagine que ça aussi c'est le travail de la maman que vous êtes.
De faire ça avec mes enfants,
ouais.
Oui, en tout cas, ils m'ont beaucoup menti. Hein, mes parents, à chaque fois que je ramenais un dessin, me disaient « Oh, c'est beau !» Alors que vraiment,
c'était pas
vraiment,
beau.
C'était pas beau.
Il ne faut pas mentir à ses enfants,
ça partait du cœur.
Mais je pense que c'est bien de mentir à un enfant petit, de lui dire que tout est possible et que ce qu'il fait est bien.
Bah, tout est basé sur le mensonge avec les enfants, le Père Noël, la petite souris. Enfin,
y a non, ça par contre, je suis très méchante. Je dis toujours qu'il n'existe pas, mais très tôt.
Mais non.
Je suis désolée, j'y arrive pas.
Non.
La petite souris n'existe pas.
La petite souris, pareil, je crois qu'ils ont, ah, ils ont capté radine, en fait. Que... Non, mais ils savent que ça, c'est pas la petite souris, quoi.
Tiens, prends tes 2 euros.
En 2008, vous écoutiez... Vous avez travaillé avec Vanessa Paradis ?
Non. Je l'aime d'amour.
Bah, pourquoi pas la caster ?
Bah, on va trouver. Sur cette série sur l'euthanasie en 3 saisons.
Il y aura bien quelque chose pour elle.
On est en 2008, Mélanie, et vous écrivez et réalisez votre premier court-métrage.
Oui, oh là là.
De moins en moins.
Ouais.
Ah.
C'était pas ce que j'ai fait de mieux dans ma vie.
Mais c'est le premier.
Sélectionné à Cannes.
Et ben, on n'a jamais su pourquoi. On se pose encore la question.
Même à Cannes.
Les gens me disent, mais je ne sais pas pourquoi.
Si vous le revoyez aujourd'hui, vous êtes.
Ah non, je ne veux pas me faire cette. Ah bah, je ne veux pas revoir ce film.
Mais quel est le défaut?
Le défaut?
Ouais.
Ah bah.
Le film.
Le film est un défaut. Le film est un essai raté, mais c'est un essai. De toute façon, il faut essayer dans la vie.
Et c'est quoi le sujet? Parce qu'on parle souvent des sujets.
C'était une jeune fille qui avait un début d'Alzheimer.
Non, mais vraiment.
Hyper fun, tout ça sur 4 minutes, ce qui est quand même fort. Déprimer les gens en 4 minutes, c'est quand même pas mal.
Après, vous avez réalisé à ses pieds, ça, celui-ci.
Ça,
là.
C'était un porno.
Bah oui.
Voilà.
Bah
rien
ouais.
à voir.
Mais bon, plus. Celui-ci, vous le renvoyez?
Non plus. Pour Canal. Ça, c'était intéressant, c'était marrant.
Pour la collection.
C'était un exercice.
La collection explicite.
Ouais. Voilà, bon, tout ça, c'était des courts-métrages.
Ok, d'accord. En 2015 arrive l'événement planétaire. Vous écoutiez Alabama Shakes avec Hold On. L'événement planétaire, c'est demain.
C'est demain le documentaire que vous réalisez avec Cyril Dion. Qui permet de présenter différentes initiatives positives autour de l'écologie et à travers le monde entier. En fait, c'est un grand voyage que vous vous payez tous les deux pour aller à la rencontre des gens. Et finalement, renouer peut-être ce qui est le plus essentiel, c'est l'échange et le dialogue.
Trouver des solutions aussi. Mmh. Il y avait cette envie de... Moi, je venais d'avoir mon fils. Et j'ai rencontré Cyril, qui m'a fait un peu un état des lieux du monde, qui m'a un peu terrorisée, mais il m'a dit, mais t'inquiète pas, il y a aussi beaucoup de belles choses, il y a plein de solutions. Et je crois que la jeune maman que j'étais avait très envie de partir d'ailleurs avec mon fils partout, pour lui montrer qu'il y avait des solutions. Mais ce qui était génial, c'est que personne n'avait fait encore de documentaire à ce point-là positif, qui donnait envie de se bouger, qui donnait envie de faire le premier pas. De toute façon, c'est très compliqué de changer le monde. Hein.
Et vous l'êtes toujours positive sur l'écologie?
Bah, on essaye, c'est un peu... J'y ai cru, hein, franchement, quand on a sorti le docu, à un moment donné, j'y ai cru. Et puis là, j'y crois hein, qu'on va trouver des solutions. De toute façon, on aura toujours des solutions. J'ai juste un tout petit peu peur là, sur le timing, en fait. Je me dis ouais. là...
En fait, on va dans un mur, mais on ne sait pas à quelle vitesse.
Non, mais je pense qu'on va toujours s'en sortir, mais j'avouerais que je ne comprends pas trop cette inertie. Ces leaders mondiaux qui se voient autour de ces tables et qui ne prennent pas de décision, ça, je suis un peu déconcertée.
En 2017, vous écoutiez Mélanie Laurent. Cette chanson, cette musique comme les autres, d'ailleurs, quelle place elles ont dans votre vie? Vous les écoutez à la radio, en MP3,
celle-là, c'est...
en faisant de la gym, en voiture, c'est... Où est la musique?
Là, par exemple, Paul Owen Pense, c'est donc le Dernier Testament, on crée à Marseille, on passe 5 semaines à Marseille, on s'aime tellement dans cette troupe qu'on a l'impression d'être sous MDMA toute la journée et on écoute Paul Owen Pense le soir, on va boire des coups à Marseille.
Et tout est doux.
Et tout est doux et tout est cool et on fait une pièce qui parle de l'amour et c'est beau. ces moments de vie dans ce métier où c'est un peu suspendu. Sans drogue, juste avec Paul Anne Pan, c'est pas mal. Franchement, c'est fort.
Faut préciser, parce qu'on avait l'impression que vous étiez sous certains produits en racontant ça.
À Marseille, simplement.
Non, là.
Ouais, voilà.
Tu respires l'air de Marseille.
Une bonne bouffée.
Et cette mise en scène du Dernier Testament était merveilleuse. Elle était magnifique. Vous vous donnez en référence dans les grands metteurs en scène des Wajdi Mouawad, des Varlikovsky. C'est encore vos deux références, ou alors justement, avec le temps, vous allez voir des spectacles et ça s'étoffe, ça s'agrandit, parce que finalement, c'est ce que vous faites aussi au cinéma, c'est de la mise en scène.
Merci. Oui, enfin là, on a été un peu coupé du théâtre et on a été coupé un peu du spectacle vivant ces derniers temps. Donc c'est vrai que c'est là où on s'est rendu compte que ça me manquait cruellement de voir du spectacle vivant. Des références maintenant, elles passent pas mal sur les photos.
Oui.
Et sur la musique aussi, en fait. Écouter une musique, tout d'un coup, ça va m'emmener ailleurs. D'ailleurs, j'essaie de pas en écouter trop souvent. Parce que sinon,
pour pas aller trop loin.
Sinon, je suis à la 7e saison de ma série sur l'euthanasie.
J'ai tellement hâte.
Et je suis trop inspirée, quoi.
Vous écoutez quoi en ce moment?
Bah, j'ai découvert Luke Howard, qui est pas, je sais, c'est pas fun. Le pianiste, je sais. Mais pardon.
Vous découvrez comment? Ce sont des amis qui vous recommandent? C'est des plateformes sur lesquelles vous allez streamer différentes musiques?
Non, je suis un peu... Je sais pas ce que... Il se passe un truc très bizarre avec cette génération, c'est que je à part faire un mail et éventuellement le message audio, là ça y est, j'ai compris comment le faire, je n'arrive même pas à me mettre Spotify sur mon... Je suis nulle.
Okay.
C'est pas très compliqué.
J'ai essayé.
Est-ce que vous avez...
Et il y a un truc qui s'est passé, que ça n'a pas marché.
Vous avez Amazon Prime quand même chez vous?
Non.
Vous ne pouvez pas voir votre film?
Non.
C'est fou.
C'est dingo, non?
On parlera après... De l'histoire aussi avec Amazon, même si le sujet est plus sur l'œuvre d'art en elle-même que son moyen de diffusion. Ouais. Exactement. Nicole Edelman, bonjour et merci d'être à ce micro. Tout va
bonjour,
bien.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité.
Historienne, on se posait la question de savoir qui était Jean-Martin Charcot.
Vous l'avez dit, c'est un neurologue qui est très connu, comme l'a dit Mélanie Laurent. C'est vraiment une des stars, en effet, avec Pasteur, mais Pasteur est pas médecin. Il arrive à la Salpêtrière en 1862. Et il dispose, il le dit, d'un matériel, d'un troupeau humain absolument énorme. L'hospice de la Salpêtrière, c'est l'hôpital de la Salpêtrière, mais aussi l'hospice de la vieillesse femme. C'est-à-dire qu'il arrive des vieilles femmes, mais aussi des jeunes, qui sont en général indigentes. L'hôpital au 19e est réservé aux indigents, donc aux pauvres. En plus, quand les femmes ne travaillent pas, bon, elles sont évidemment très rapidement très 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 pauvres.
Mais il n'y avait que des femmes.
Que des femmes, absolument que des femmes. Et donc il va avoir il le dit lui-même, je le répète, matériel humain pour étudier des tas de paralysies, neurologie, etc. Et il va découvrir des processus d'évolution de maladies paralysantes. Alors vous l'avez dit, la maladie de Charcot, c'est la sclérose latérale amyotrophique.
Oui.
Hein, et puis il va approfondir beaucoup d'autres paralysies, des ataxies, la sclérose en plaques. Il va améliorer la connaissance de la maladie de Parkinson, etc., etc. Et il va prendre un service d'hystérique tout à fait par hasard, parce qu'il y a eu des destructions, en 1865. Mais ce service des hystériques, c'est 150 malades, hystériques et épileptiques non aliénés, c'est-à-dire qu'ils ne s'occupent absolument pas des folles. Ces hystériques, elles ne sont pas folles. Il y a un service à côté, l'asile de la Salpêtrière, qui est très connu, hein, bien sûr. Les sections jouxtent, et Charcot ne se gêne pas d'ailleurs quand ces hystériques, enfin je mets ces hystériques avec des guillemets,
ouais,
de les envoyer un petit séjour dans l'asile à côté, parce que ben là, c'est plus dur, hein, parce que les folles, parfois elles sont très violentes. Et on voit des Blanche, par exemple, Wittmann, je ne sais pas si vous connaissez le grand tableau de Brouillet, qui est en situation de crise, il l'a fait passer 15 jours comme ça.
Mais
chez l'école.
Et
elle revient.
C'est ce qu'il fait comme dans le film, en l'envoyant chez Jeanne.
C'est ce que, oui. Comme dans le film et donc dans le roman, elles étaient accusées d'hystérie ou de folie parce qu'elles dérangeaient et pas parce qu'elles l'étaient réellement. Le sentiment
non,
que
elles
l'on
avaient
a...
réellement des crises. En oui. plus, quand elles... Enfin,
peut-être remonter au...
c'est un hôpital.
Au motif, oui.
Donc, elles étaient souvent prises en crise dans la rue. ou bien on ne les internait pas, puisque c'était, si elles étaient folles, on les internait. Mais sinon, lorsqu'elles arrivaient comme malades, non aliénées, elles étaient hospitalisées dans le service de Charcot.
Pour reprendre l'une des scènes, il y en a plusieurs, mais l'une des scènes fortes et qui donne d'ailleurs son nom au film, le bal. C'est-à-dire qu'une fois dans l'année, tout le monde se déguise, tout le monde se mélange, on s'avire à l'orgie dans certains coins ou recoins de la Salpêtrière. Ça existait ou c'est une totale imagination?
Ça a réellement existé, c'est Charcot qui l'aurait fait. C'est le Petit Parisien qui raconte ça. On peut trouver l'article, il est minuscule. Hein. 19 mars 1887, le bal des folles. Mais dans l'article, il est clairement dit que la plupart des folles, à vrai dire, il n'y a pas là que des filles folles. Il n'y a pas là que des folles. Non, pas du tout. Il y en a même très très peu. Ce sont des hystériques du service de Charcot, très peu nombreuses. C'est surtout un moyen pour Charcot qui assiste d'ailleurs assez rarement, de valoriser son service, de se valoriser lui-même. Et ces filles...
Non, mais pardon, et de faire venir des hommes qui profitent de la situation?
Bien sûr, en particulier les médecins, les internes, etc. Bon, voilà. Vous parliez du viol. Alors ça, c'est intéressant parce que Charcot ne tient absolument... Énormément de ces femmes ont été, de ces femmes, de ces malades, de ces patientes ont été violées. Mais pour lui, le traumatisme, il est purement physique. Mmh. Alors, il va découvrir, évidemment, enfin, il va mettre au jour une, pas lui, ça a été fait avant, mais une hystérie mâle, comme il dit, c'est-à-dire des hommes. Parce que, pour lui, l'hystérie, c'est une lésion dynamique du cerveau. Ça n'a rien de psychique. Donc, évidemment, vous avez un cerveau, les hommes. Hein. Bon, donc, vous pouvez être hystérique.
Merci de le noter.
Mais, donc, ils sont traumatisés par des accidents, surtout du chemin de fer. Et puis, les femmes, quand on regarde, c'est du domestique. C'est-à-dire, une planche leur est tombée sur la tête, elles sont tombées dans l'eau, glacées, au moment de leurs règles, évidemment. C'est le grand moment.
Ah bah oui.
Ouais. Là, on devient hystérique.
Elles sont folles.
Et puis, elles ont été mordues par un chien. Mais le viol... ça arrive en 12e position. Ouais. C'est bon. En gros, ces femmes qui sont là dans son service et dans le service des folles, c'est le petit peuple parisien, les pauvres. Il y a énormément de domestiques, de couturières, de lingères, de plumassières, probablement des prostituées, mais quand elles arrivent et qu'on leur demande ce qu'elles sont, elles disent pas qu'elles sont prostituées. Hein, elles disent qu'elles sont journalières, c'est-à-dire bon, elles sont prises à la journée, des choses comme ça. Les traumatismes qu'elles ont eus, même si c'est le viol, c'est pas du tout ça qui apparaît.
Merci Nicole Edelman d'être venue à ce micro et de nous avoir éclairé. Mais ça va totalement dans le sens de ce bal des folles réalisé par Mélanie Laurent. Voici un autre fou.
Donc, j'ai remarqué, j'ai jamais repris de chansons en anglais, moi.
Ah.
Ouais, alors souvent les Français ont fait du yaourt quand on fait de l'anglais. Moi j'ai une technique pour pas faire de yaourt.
Vas-y.
Il suffit de d'énumérer des aliments ou des trucs qui peuvent se mettre dans la bouche et ça marche avec toutes les chansons anglaises. Okay. Par exemple, si je vous dis amande, steak, fruit, eh ben on a Freddie Mercury.
Amando, steak, fruit.
ça marche même avec des grands classiques genre Elvis Presley. Après je vous cache pas que ça gâche un peu la chanson. Ça passe.
La mayonnaise, eau qui coule d'une tartine, de l'ail dans des crêpes, du pudding une mort, du pistou, du Cantal. Un steak wasabi gin volaille caïsep la salive une clope du sein doux un plat de bulot. Du hachi, des sushis, mousseline, coleslaw, onion rings, un petit rôti.
Tu gâches tout.
C'est pas fini.
Cake pastèque, de l'agneau du tofu, du thaï, du miel, une bouteille de rhum, du chou, des abats, du gigot, du bon lait, du persil, praliné, haricot, la margarine, menthe et radis, raisin sec, cornichon aigre doux, du cheval, du chèvre. Il y a des enseignes qui jettent tout, pendant que de faim tu crèves. Il y a des enseignes qui jettent tout.
Merci Jérémy.
En un mot, de quoi parles-tu aujourd'hui ?
De James Bond, j'ai horreur de James Bond parce que j'arrive pas à me projeter alors que Bob l'éponge plus quoi.
La bande originale avec les lacs de Montagny, Marc-Anne Cadignan, Paul Mirabel,
bonjour.
Jérémy Crévier, Tanguy Passureau, oui, Daniel Morin et Mélanie Laurent. Pour ce nouveau film qu'elle vient de commettre, Le bal des folles. J'aime bien commettre un film qu'elle réalise, adaptation du roman éponyme que
Victoria Mas,
producteur, voilà, que votre producteur vous a apporté. Et c'est sur Amazon Prime, Le bal des folles, un film sur lequel aussi vous vous êtes amusé, je ne sais pas si le mot va bien, exercer à réaliser. Tout à l'heure, vous parliez de filmer uniquement les nuques, la beauté de la lumière, le montage, la direction d'actrice. Il y a des moments où on se met aussi des barrières ou des défis en disant « je vais arriver à faire ça ».
Là, déjà, sur ce film, j'ai changé un peu une partie de mon équipe technique, parce que j'ai fait tous mes films.
Ça, c'est un défi ?
Bah, oui, c'était un défi pour moi parce que, enfin, Arnaud Potier, que j'adore et que j'aime de tout mon cœur, on fera d'autres films ensemble, mais il ne pouvait pas faire celui-là. Et j'ai eu un vrai, vrai vertige parce qu'on a fait tout ensemble et que c'était très, très bizarre pour moi d'imaginer de repartir sur un film sans lui.
Changer de repère.
Et donc, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. C'était un peu une histoire d'amour, en fait.
Ouais.
Il m'a dit, vas-y, trompe-moi.
Vous l'avez trompé.
Je prends ce risque-là. J'ai dit, attention, je peux peut-être tomber très amoureuse. Je prends un risque énorme. Donc, j'ai rencontré Nicolas Karakassanis. Oui.
On est d'accord.
Toute la journée.
Vous l'avez bien descendu.
Qui est un immense chef-op flamand, incroyable, qui a fait des films que j'adore, Aitonia, qui a fait Cruella là dernièrement.
Ouais.
Et qui est un peintre en fait, qui est un peintre et qui a la première semaine où on s'est rencontrés m'a dit alors ce film-là c'est du 35. Je dis ah bon, mais ah bon d'accord. Il faut qu'on le fasse en pellicule et ça a toujours été mon rêve et c'est vrai que j'avais jamais osé.
Et pas en vidéo et que le grain entre guillemets
m'a dit on ne peut pas faire du digital sur du 1880, c'est impossible. Et donc on y a été quand même Amazon Prime Vidéo, on va faire du 35 les gars avec un peu de grain.
Et il y a une scène qui est dingue. Je ne sais pas si on vous en a beaucoup parlé de cette scène-là. C'est un plan séquence qui arrive au milieu du film. Oh, me faites pas genre, je vois pas lequel.
Bah non, mais écoute, je suis, vas-y.
Le plan séquence où elle rentre dans le dortoir.
Ouais.
Et où
le dortoir ou le là où il y a les draps?
Le dortoir. Celui des draps.
C'est pas quand elles étendent les draps. Ouais.
Non. C'est dans le dortoir et où la caméra tourne autour du lit où elle fait connaissance de celle qui va être avec elle. Non, mais ça dure plusieurs minutes.
Mais en fait, ça durait beaucoup plus longtemps.
C'est un défi, ça. Faire un plan séquence comme ça qui finit sur les larmes de Lou Delage.
Mais je vais arrêter ces défis parce que c'était un plan séquence qui durait 3 minutes de plus. avec toutes les filles qui racontaient leur, enfin c'était, et je sais pas pourquoi, en fait quand on fait un plan séquence c'est super, hein. J'adore faire ça, mais il faut toujours prévoir d'autres axes et d'autres angles au cas où, parce que là ça marchait pas, et après il a fallu que je fasse un cut qui est quand même un peu dur pour récupérer ses larmes à elle.
Ouais, mais il est dur et il va avec la dureté de la situation. Bon, en tout cas il est réussi, et comme le film d'ailleurs, hein, parce qu'on parle beaucoup du sujet, du fond, des actrices, de votre carrière, mais il faut quand même aller à l'essentiel. C'est un très bon film.
Ouais,
voilà, très bon film. Le bal des folles, voici Monsieur Tanguy Pastureau.
Je ne sais pas si vous êtes au courant, parce qu'on en parle peu, mais dans 6 jours, il y a le nouveau James Bond qui sort. Et je trouve ça bien de montrer des vieux films sur grand écran. Ah bah celui-là, on l'a attendu. Hein. Il a été tourné avant le Covid, la moitié des acteurs sont morts depuis, hein, de vieillesse. Oh. Il a fallu retourner des scènes parce que Bond téléphonait avec un Motorola à clapet, il jouait au serpent en écoutant Yakalelo. Alors le film s'appelle « Mourir peut attendre ». L'histoire en gros, James Bond a pris sa retraite, il regarde Slam avec Cyril Ferraud en bouffant de la brioche, aux côtés de sa femme, Madame Swan, qui est interprétée par Léa Seydoux. Là, un agent de la CIA sonne chez lui. Bond lui dit « Heureusement que tu tombes pendant la pub, que je m'étais levé pour aller pisser ». Et l'autre répond « On a une mission pour toi ». Bond lui dit « Gros, t'es gentil, je vis avec Léa Seydoux, donc je ne bouge pas de la baraque ». Mais vous savez comment sont les agents de la CIA ? Ils insistent. « Allez Bond, sois sympa, promis, après je te loue une chambre aux Hespérides à Mulhouse, personne ne viendra plus te chercher ». Donc là, si James Bond était à Radio France, il appellerait la CGT pour faire valoir son droit à la retraite. Mais il est anglais ce con, c'est-à-dire qu'il a une Aston Martin, mais plus d'essence à foutre dedans. Donc il accepte et il doit retrouver un scientifique kidnappé, sans doute celui qui était chargé de vaccins français chez Sanofi, parce qu'on n'a jamais eu de nouvelles. Et là, c'est l'explosion de son bilan carbone. Hein, il passe de la Jamaïque à la Norvège, un tour par l'Italie, les 15 jours du blanc au Leclerc de Saint-Dizier, et il finit à la Baule, où là, il voit Bruno Retailleau se baigner dans l'Atlantique en petit slip et se découvre donc bisexuel. Alors, Bond est toujours interprété par Daniel Craig, l'un des seuls mecs à être musclé, même des joues. Hein, quand un moustique essaye de le piquer, il se tord le dard parce que là-dessus, il n'y a que du nerf. Hein, c'est pire que la viande chez Lidl. Alors, mardi soir, il y a eu l'avant-première à Londres. Les acteurs étaient là, plus les princes Charles et William. Ils ne branlent rien de leur vie. Donc, dès qu'il y a un film, ils accourent. Hein, même Pierre Lapin, ils l'ont vu 4 fois. Bon, une fois en VO, hein, en langue lapin. Il y avait aussi Billie Eilish, la chanteuse molle, qui a enregistré la chanson du film un jour où elle dormait. C'est très cotonneux. À chaque fois que je l'ai écoutée, après, je suis allé me laver les oreilles en pensant que c'est moi qui avais un bouchon. Un Billie Eilish, c'est Lana Del Rey en moins heavy metal. Alors bon, la soirée à Londres était magnifique. Ana de Armas, la nouvelle Bond girl, portait une robe Vuitton noire. Léa Seydoux, une robe Vuitton blanche. Quand les deux se sont mises l'une à côté de l'autre, on aurait dit un drapeau à damier. Le chauffeur du prince Charles a cru que c'était un début de rallye. Il s'est barré à fond avec la Rolls. Billie Eilish, elle était en Gucci, et Steve, un des techniciens lumière, en jean de chez Jules. Oui, parce que James Bond, globalement, quand même, c'est du luxe. Hein, jamais dans les films, vous le voyez passer devant un courte paille et dire, tiens, je me ferais bien la formule, les bons le bœuf à 14,90€. Non! C'est voitures de luxe, palace, fringues de marque. Moi, à un moment, j'ai eu envie de devenir agent secret, ras-le-cul de l'hôtel Ibis, quoi. Mais c'est compliqué, il faut manier des armes à feu. À la fête foraine, j'arrive déjà pas à éclater 3 ballons pour avoir le gros Pikachu. Donc je me suis pas risqué. Il y a une étude britannique qui dit que dans le dernier film, James Bond dépense l'équivalent de 699 000 euros par jour. Hein, Lionel Messi a lu cette étude, il a dit « Je vois pas où vous voulez en venir ». Alors, ils ont tout détaillé. Bond fait un vol Londres-Rome en première classe, donc 5 000 euros. La première classe en avion, comment vous dire, c'est la même chose que la seconde, sauf qu'on est véhiculé avec le respect dû à la personne humaine. Il roule en Aston Martin Valhalla, donc 675 000 euros, et il a une montre Omega à 8 000 euros, ce qui ne sert à rien puisque l'heure est la même que sur une Swatch. Si encore on était surclassé, je veux dire, si quand pour les pauvres il était 14h10 chez vous, il était déjà à l'heure du goûter, mais même pas. Enfin, et c'est ça qui est frustrant dans les James Bond, c'est qu'on n'arrive pas à se projeter. Enfin, moi, je l'ai fait une fois. Dans une scène au Pérou, il y avait un type qui donnait à boire à un lama. Je me suis dit, là, ça pourrait être moi. Ou plus vraisemblablement, Christophe May. James Bond, on peut pas s'identifier. C'est pour ça que moi, je regarde plutôt les films des frères Dardenne. Là, je peux me dire, Kevin, ce dépressif rongé par le psoriasis, me rappelle quelqu'un, moi. Hein, James Bond, il est riche, beau, il sait se battre. Moi, un coup de poing, je suis par terre, ou une pichenette au-dessus de l'arcade sourcilière, si c'est Teddy Riner qui est en face. Bond, il a de l'humour à des moments où normalement on n'en a pas. Quand il y a une explosion, il se relève, il retire de son épaule la seule poussière qui est venue se mettre sur lui. Toi, ton Magic Mix est mal fermé, t'as toute la purée de carottes sur ton polo, d'accord ? Et là, il dit à une fille, chérie, t'aurais pas oublié un truc sur le gaz. Voilà, moi, rien que si je suis dans la salle d'attente pour faire une prise de sang, je perds tout humour. On me dit ça va, je réponds, bah non, je vais crever. Quoi. Parce que c'est facile d'être rigolo en studio face à Nagui, qui est tout gentil. Même les animaux, ils les tuent pas pour en faire des carpaccio. Mais avoir la vie de Bond et être drôle, respect. Et puis Bond, ils ont beau le faire
père un peu fragile, c'est pas non plus Miossec, hein, c'est un mec à l'ancienne, pas encore déconstruit par Alice Coffin. Or, ce genre d'homme n'existe plus, parce que si vous êtes comme ça, à rouler des pelles à la terre entière en conduisant des voitures phalliques, on vous accuse de faire le jeu du patriarcat. Je propose donc qu'on arrête la saga maintenant, il y a déjà eu 25 films, on n'en peut plus, ou alors qu'on mette Sandrine Rousseau d'Europe Écologie Les Verts dans le rôle de James Bond, par pitié, quoi.
Merci. Et Tanguy, on se retrouve le 14 janvier au Zénith de Pau.
Oui.
Et oui.
C'est le genre de film que vous allez voir, ça, James Bond, Mélanie Laurent. Super production.
Moi, je suis Mission Impossible.
Ah. Ah d'accord, ok. Donc les sagas, vous aimez?
Ah, j'aime bien les. Ouais.
Et les effets spéciaux et.
Mais quand il y a une histoire et que oui, enfin, j'ai pas besoin de me projeter, j'y vais et après, ce qui m'en reste beaucoup de choses après.
Ouais,
je sais pas. Mais j'ai passé un bon moment, ouais.
Très bien, la culture, Leïla Kado vous a dit, que se passe-t-il à part James Bond ?
On va parler d'Alpha, vous connaissez Alpha ? C'est un personnage de fiction.
Alpha.
C'est un chien ?
Non, je confonds avec Ziggy.
Non, ça sera l'héroïne d'une saison 2 d'une série dont on a parlé.
Un spin-off ?
Une série qui avait regroupé plusieurs dizaines de millions de visionnages durant le confinement.
Casa des Papel.
Non, une série française. Non,
bah alors, c'est pas Arsène Lupin ?
Validé.
Validé, absolument. Ah, bravo Paul. Paul, tu as gagné. C'est l'héroïne de la saison 2 de Validé.
Tout à l'heure.
Ouais. Elle, ça sera en ligne à partir du 11 octobre. On va retrouver
C'est une fille qui rappe.
Absolument. On va retrouver une grande partie de la bande. Est-ce que vous regardez beaucoup de séries? Est-ce que, de même que vous aimez les Missions Impossibles, il y a une série en particulier qui vous a tenu captive, rétive de votre écran?
Je peux pas le dire. C'est trop la honte,
mais il n'y a pas de honte ici.
Amour, gloire et beauté.
Non, mais c'est vrai que ma série préférée, c'est Grey's Anatomy.
C'est trop bien.
Ça va.
C'est trop bien.
Bah, c'est pas honteux. C'est pas honteux.
C'est un peu complètement has-been aujourd'hui avec tout ce qu'il y a en série de regarder ça.
Oui, mais que de rebondissements.
Que de rebondissements. La saison 28.
Qu'est-ce qui va arriver dans cet hôpital?
Culture Grey's Anatomy, mais ouais, c'est générationnel, pourquoi pas. Quel nouveau métier fait fureur en Chine chez les influenceurs?
Chirurgie esthétique.
On l'utilise pour atteindre un certain résultat et lequel?
Le bistouri, le dentiste.
On fait appel à la chirurgie esthétique éventuellement, mais pourquoi?
Parce qu'il mange.
Pas pour rajeunir, non.
Pour vieillir.
Non plus.
Pour ressembler à des héros de manga.
Pour ressembler pas à des héros de manga,
à des filtres Instagram.
À des Européens.
À des stars.
Ah,
à devenir sosie de star. Donc il y a des femmes et des hommes qui font appel à la chirurgie esthétique parfois, ou qui ont déjà une ressemblance avérée avec une grande star et qui s'amusent à faire des contrats avec des produits de beauté pour en vendre en utilisant l'ambiguïté de la ressemblance.
La tristesse.
C'est devenu quand même un certain marché. C'est assez étonnant. Est-ce que vous êtes vraiment la vraie Mélanie Laurent?
Répondez en chinois.
Septembre.
Non, j'ai l'impression zéro maquillage.
Ah oui, là j'avouerais que là ce matin.
Non, mais
ça va.
Zéro maquillage, pas de montre, pas de bijoux, pas de bague, rien.
Ah oui, c'est vrai.
Moi non plus, vous ne dites rien.
Oui, mais excuse-moi, Mélanie Laurent m'intéresse plus que toi.
Oh, c'est horrible.
Non, mais c'est votre.
J'ai besoin d'argent, moi.
Je fais un peu de la peine ou quoi?
Non, mais pourquoi une femme devrait venir maquiller?
Non, c'est pas ce que je veux dire.
Non, mais je sais, mais
vous jouez la carte nature.
Je joue pas la carte, j'avouerai que.
J'ai pas le temps.
Elle joue la carte flemme.
Mais non, mais
c'est la carte flemme.
Je sais pas, j'ai l'impression que je peux venir comme ça.
Bien sûr. Ça nous touche. Vous vous sentez tellement à l'aise que vous n'avez même pas pris le temps de vous doucher ce matin.
C'est une grande marque de confiance.
Ouais. Non, mais il y a un véritable mouvement.
On se sent à la maison.
Ouais, c'est bien. Hein.
Non, mais il y a un véritable mouvement aussi qui consiste à s'assumer tel qu'on est. Absolument.
Ne pas s'épiler et se laisser aller.
Non, enfin, pas se laisser aller. C'est pas se laisser aller que d'être à un état de nature.
Les gens vont imaginer des trucs de dingue.
Non, mais être à un état naturel, c'est pas se laisser aller.
Sortir les granulés. Daniel Vessapi 84. Il est très heureux.
Tu devrais. Ouais. On parle des auteurs, compositeurs, interprètes.
Il y a une émission pour ça.
Ben oui, en partenariat avec France Inter.
C'est vrai.
France Inter et France 2 proposent chaque semaine, et ça sera donc demain soir à 22h45 en direct sur France 2, et c'est tous les soirs à 20h avec Leïla.
Oui.
Kado Boudadi, les masterclass de The Artist.
Absolument, hier soir.
Comment écrire des chansons, comment les créer, comment les composer.
Ça, c'est génial.
Et ouais, donc tous les soirs, un mentor différent. Hier soir, c'était Oxmo Puccino.
Alors
qui nous a parlé de sa pratique. Alors
comment il écrit ses chansons?
Alors lui, c'est pas forcément que cette question-là, mais on l'a évoqué. évoquait avec tous les invités il y a deux semaines déjà passées. Donc vous allez pouvoir revoir en replay les conseils d'une Clara Luciani, ah, par exemple, d'un Vincent Delerme. On a eu un nombre assez incroyable d'artistes qui sont venus délivrer
Boris,
comme ça,
Boris
hyper Berman généreusement.
Ouais. Et Jean-Louis Aubert demain.
Ouais, Jean-Louis Aubert, Pascal Obispo est venu aussi. Donc hier, c'était Oxmo Puccino.
MC Solar la semaine prochaine, Laurent vous le dit celle d'après.
Ouais, il va y avoir un très beau programme.
Tu m'as l'air de bien connaître ce programme.
Ouais. Je crois que tu connais plutôt pas mal.
Je regarde Léla. Tout ce que fait Léla, je regarde.
Et on a discuté un peu avec Oxmo. Et Oxmo, il insiste vraiment sur la nécessité, l'importance dans une carrière des rencontres. Et j'imagine que vous ne direz pas le contraire, Mélanie.
Les rencontres sont essentielles et définissent clairement votre parcours. Et même au-delà des choix. Ce qu'on avait en commun, c'est ce goût pour la nouveauté. Et la stimulation qu'on avait les uns pour les autres, c'est-à-dire que dès que quelqu'un nous épatait, on voulait être meilleur que lui. Et donc, de fil en aiguille, tout le monde progresse en même temps. C'était formidable parce que tout le monde s'admirait. Je veux dire, admirer les gens avec qui on travaille, c'est ce qui peut nous arriver de mieux.
Oxmo Puccino, le poétiseur, comme il aime à s'appeler, nous a aussi parlé du rap, qui est un mouvement musical qui, pour lui, à ses débuts, était un peu méconnu. Et c'est un mouvement qui grandit, et lui, ça le réjouit.
À l'époque de mes premiers disques, on était 15-20 rappeurs. Aujourd'hui, ils sont des centaines. Aujourd'hui, le rap est assumé en tant que chanson. Donc, on s'exprime avec beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de plaisir, sans vouloir imposer quoi que ce soit. Et ça donne des beaux résultats. Et puis, on a tellement de choix que forcément, on peut pas bouder longtemps, quoi. Il y a toujours des artistes qui vous correspondent. Donc, moi, j'en ai plein que j'apprécie énormément. Et je le fais tout de suite savoir partout.
C'est marrant, il a dit « on était 15 au début et maintenant ils sont des centaines ». C'est-à-dire qu'il ne se reconnaît plus dans le monde du rap.
Il s'y reconnaît quand même puisqu'il manifeste son attachement, son affection à plein de rappeurs. Mais il a aussi conscience que le mouvement a évolué et que lui a voulu diversifier aussi son origine musicale et sa direction artistique, ce qu'il fait tout le temps.
La musique, Mélanie Laurent, pas celle de votre film, mais... la vôtre.
Et ben quoi ?
Je vous laisse finir la question toute seule.
Mais je sais pas. Mais alors, ça m'intéresse du coup. J'adorerais qu'on m'explique comment on peut avoir à un moment donné dans sa vie pu écrire des chansons, que les rimes viennent et plus du tout jamais.
Mm-hmm. C'est votre cas ?
Ah mais c'est un truc de dingue. Je ne l'explique. Enfin, si, il doit y avoir une vraie.
Faut prendre des aliments.
Non mais j'ai un blocage total.
Il y a dix ans, votre album, on a beaucoup parlé tous les deux. J'avais eu la chance de vous recevoir et de vous entendre chanter. Je trouvais ça extrêmement bien. C'est quand même bizarre, soit de ne plus avoir l'appétit de la musique, parce que de dire je trouve plus les rimes.
C'est vrai.
Non, c'est que vous y mettez pas ou vous avez pas l'inspiration.
Oui, c'est vrai que je m'y mets pas beaucoup,
pas l'envie.
Ou pas le temps.
Non, j'ai. Mais en même temps, quand je fais un peu de musique, quand je rencontre, il parle de rencontres, quand je rencontre Assaf Avidan, c'est génial. Évidemment que c'est pas moi qui compose, mais on parle pendant des heures. Je vais en Italie chez lui, il fait venir un violoncelliste. On fait chaque track, je suis là. Après, on parle de qu'est-ce qui pourrait aller le mieux sur cette scène. Obligatoirement, un metteur en scène, il sait exactement ce qu'il veut. Je l'ai un peu guidé, on s'est rencontrés, emmenés dans des endroits différents. Il m'a convaincu qu'il fallait mettre beaucoup de musique. On s'est engueulé parce que je voulais pas en mettre beaucoup. Au final, il avait raison. Il a essayé de me convaincre. Après, on raconte une musique, c'est raconter une histoire, c'est un ton, c'est une atmosphère. C'est du coup, c'était. Enfin, j'ai pas de frustration en tout cas parce qu'à chaque fois que je fais un film, il y a toujours des moments où quand même je me retrouve face à la musique.
Elle pourrait faire une masterclass, Mélanie Laurent. The Artist. Ce soir 20h, Leïla Kadour-Boudali sur le canal 14, Culture Box, et demain 22h45 en direct avec Jean-Louis Aubert, avec Joyce Jonathan, avec la grande Sophie. Et
sur France 2, sur Nagui.
Sur Nagui. Ouais.
Elle a fait le lapsus.
J'ai fait ce lapsus à la fin du journal la
journal
semaine dernière.
Ouais.
Je dis, voilà, ne manquez pas
ce soir, The Artist sur Nagui.
On avait très peu de temps, donc j'ai un peu skidé et j'ai dit, voilà, sur France 2, sur Nagui, et j'ai eu un démarrage de fou rire que j'ai réprimé avec beaucoup de conscience professionnelle. D'ailleurs, j'ai pas reçu de message de remerciement pour ça. Mais de ma direction qui aurait pu dire quand même, c'est beau de se retenir. Mais bien sûr que oui.
Moi, je t'ai dit, merci, je t'adore. Mais bon, revenons à ce bal des folles avec Lou Delage, avec vous, Mélanie Laurent. Vous êtes posé la question d'ailleurs de savoir quel rôle vous alliez vous donner dans la distribution.
Mais je veux jamais jouer dans mes films. C'est toujours un peu un truc de... de facilité de production de dernière minute, souvent. Là, en plein Covid, c'était assez
C'était plus arrangeant. Simple que ça soit vous. Ouais, ça faisait un test en moins. Ouais. Benjamin Voisin, qui joue le rôle de Théophile. Emmanuel Berco, qui est juste flippante, mais formidable.
Christophe Montanez.
L'Oman de Dietrich. Moi, j'ai découvert cette actrice.
Moi aussi, tout le monde.
Elle est dingue. Enfin, au sens positif
du
terme.
Ça, c'est
beau
aussi. Ça, c'est les moments les plus incroyables quand on est metteur en scène. C'est quand on voit
on révèle
40 personnes et tout d'un coup, on en voit une et on fait « Oh !» Tiens, c'est marrant, c'est elle. Oh,
c'est le premier film Amazon, c'est la seule chose que je dirais sur Amazon, je laisse au grincheux le reste. Ah. C'est la première fois qu'il y a un film original français, produit, créé, initié par Amazon. C'est sur l'abonnement donc Prime Video, le bal des folles à voir absolument. J'ai presque envie de dire aux parents, regardez-le avec vos filles, parce que c'est une leçon aussi d'un
déconseillé au moins de 18 ans.
D'un pan de notre histoire. Non.
Si.
C'est vrai?
Ouais.
Ah bon, on fait ce qu'on veut chez soi.
Oui, non, mais il n'y a rien de...
Excusez-moi d'être précis.
Okay.
mais aux fils aussi, peut-être.
Tu as raison. Aux enfants. Des excuses à présenter.
Bien sûr, désolé pour nos auditeurs sensibles qui nous ont reproché de faire ce matin une émission angoissante, flippante, gênante, plein de trucs en rentrant. Hein. Alors, je vous rassure, demain, ce sera plus léger. On parlera hommes borgnes et femmes au gros sein avec Bastien Vivès. Désolé pour Léla, qui s'est permise de ne pas être d'accord avec Nagui pendant cette émission. Folle. Alors, Nagui a une réaction...
Hystérique.
Une réunion de crise avec lui-même. Et que faire? Frapper sa collaboratrice? Non, il n'a pas le droit. Il a saigné un stagiaire. Désolé pour Mélanie Laurent qui s'est permise de ne pas être d'accord avec Nagui. Folle! Que faire? Frapper l'invité? Non, il n'a pas le droit. Il a re-saigné le stagiaire. Désolé enfin pour la joie, le rire, le bonheur et tous les autres éléments qui ne rentrent jamais dans la filmographie de Mélanie Laurent. Mais en même temps, avec la misère, le malheur, l'exclusion, la maladie et puis la mort, vous serez toujours, mais toujours, la bienvenue sur France Inter.
C'est clair. Merci Mélanie, revenez
Merci.
Quand vous voulez.
Je me maquillerai la prochaine
fois. Non, reste naturel.
On demandera à Bastien Vivès demain s'il s'est maquillé.
Merci Tanguy, Jérémy, Paul, Daniel, Morgane, Leïla. Merci Mélanie Laurent. Tout de suite, les carnets de campagne de Philippe Bertrand. À demain. Merci.